Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter au sommaire de l'émission. Comme tous les samedis, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein, on les retrouvera dans un instant. Et puis, en débat ce week-end, la société de la défiance. Pourquoi les Français font-ils aussi peu confiance au président de la République, au gouvernement, pour gérer cette crise inédite que nous traversons? Vrai casse-tête pour l'exécutif, comment mobiliser la population quant à la crise sanitaire? S'ajoute une crise de la confiance. Sur la scène politique, l'union sacrée a vécu. Pourquoi aura-t-elle duré aussi peu de temps? On va en débattre tout à l'heure avec l'invité du grand face-à-face. C'est l'un des meilleurs spécialistes de l'opinion et de la vie politique. Directeur du CECOP, le centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, et chercheur associé au CVPOF, le centre d'études de la vie politique de Sciences Po. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec Jérôme Jaffray. Mais d'abord, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, toujours confiné mais fidèle au rendez-vous. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour Ali.
Heureux de vous retrouver. Le moral est bon ?
Ça va.
Oui, le moral est bon.
On sent quand même une petite hésitation, mais je pose la question parce que Gilles, c'est le rituel du samedi. Avec la Fondation Jean Jaurès et l'IFOP, vous nous donnez des nouvelles justement du moral des Français, de notre moral. C'est pas un sondage, mais je rappelle que c'est ce que disent les cahiers du confinement que vous avez confié à des dizaines de Français et que vous scrutez à la loupe depuis donc le début de notre vie confinée. Où en sommes-nous, Gilles ?
Alors, avant le discours d'Édouard Philippe présentant la stratégie de déconfinement à l'Assemblée nationale, l'état d'esprit des Français, je ne vais pas réussir à le présenter d'une formule comme je le faisais les semaines précédentes, mais autour de trois mots, épuisement, débrouillardise et paranoïa.
Ah oui.
L'épuisement est un épuisement psychologique qu'on sent monter, à la fois en raison de ce que l'on vit, de la longueur du confinement, de ce plateau dont on voit qu'il résiste, mais aussi en raison de ce que l'on sent de plus en plus qu'on ne vivra pas. Des projets qu'on doit différer, les mariages, les vacances, les déménagements.
Oui.
Et donc, il y a cette forme d'épuisement psychologique. Le deuxième mot, c'est la débrouillardise. On a parlé depuis des semaines de cette défiance qu'avaient les Français sur la question des masques envers les pouvoirs publics. Eh bien, ça se traduit par une débrouillardise sur les masques. Pas seulement pour s'en procurer, mais c'est la nouveauté de cette semaine, pour les confectionner. On a vu de plus en plus de Français qui nous disaient « Eh bien, j'ai téléchargé le patron du masque sur le site de l'AFNOR. » C'est le retour de la couture. Et de fait, il y a eu 800 000 téléchargements de cette
800 000 téléchargements de ce patron. Natacha, vous avez commencé à coudre vos démasques, vous aussi ?
Alors, j'avais commencé avant, en fait.
Bravo.
J'ai ressorti ma vieille machine à coudre, Zundapp 1950, increvable. Et je m'y étais mise parce que j'ai tout de suite pensé que pour réserver les masques manquants aux soignants, eh ben, il valait mieux se débrouiller par soi-même quand on en avait les moyens. Moi, vous savez, je suis pour l'autonomie des individus. Hein, donc, on essaye d'être libre et on organise les conditions de sa liberté.
Et on attendra le tuto masque par Natacha Polony. Donc, Gilles, l'épuisement, la débrouillardise et la paranoïa.
Et la paranoïa. Et ça, c'est un élément qui est très nouveau et c'est notamment autour de la question de la distanciation, qu'on appelait distanciation sociale, que le Premier ministre a appelé distanciation physique. Mais peu importe le mot, ce qui inquiète, c'est la chose. Et elle inquiète plus que le port du masque. À la fois en raison de ses difficultés pratiques, parce que c'est contraire à nos habitudes latines, mais surtout en raison de la charge symbolique qu'elle contient. Ce sentiment que on va vers, au moins pour un temps, une sorte de perte d'humanité, d'une société parano, pour reprendre l'expression d'un des Français, ou pour reprendre l'expression d'une autre Française, elle craint cette situation dans laquelle, faisant référence à la formule de Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Donc voilà un peu les trois mots, épuisement, débrouillardise, paranoïa, et puis juste d'une phrase, quand on regarde ce qui s'est passé après le discours d'Édouard Philippe, cette fois-ci avec des éléments de sondage quantitatifs.
Et on va y venir justement avec Jérôme Jaffray.
On retrouve le paradoxe qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire de mesures qui sont approuvées massivement, très massivement, avec, on va en parler sans doute avec Natacha, l'exception de l'école, et dans le même temps, une confiance au gouvernement qui n'est accordée que chichement, peut-être qu'il y a des doutes sur la mise en œuvre de cette stratégie.
Un mot, Natacha, avant de passer justement au mode d'emploi du déconfinement que présentait le Premier ministre mardi dernier. Comment expliquer ce paradoxe que vient de nous exposer Gilles? L'enfer, c'est les autres. On a évidemment peur ou on se méfie d'être trop proche de ceux qui pourraient nous contaminer. Et puis, d'un autre côté, il y a l'impatience de retrouver ses proches. Il y a l'impatience de retrouver ceux qu'on aime, mais qu'on n'a pas pu voir, qu'on n'a pas pu toucher, qu'on n'a pas pu rencontrer depuis parfois des semaines maintenant.
C'est justement ça qui est extrêmement violent, en fait. C'est le fait de prendre conscience que tout ce qui fait la beauté de la vie, c'est-à-dire le contact, la tendresse, va devoir être soumis à un contrôle permanent et à une méfiance, en effet, parce que méfiance vis-à-vis de soi-même, ne pas contaminer ceux qu'on aime, en particulier les plus âgés, et méfiance vis-à-vis des inconnus autour. C'est-à-dire, c'est en cela que cette crise va continuer à être extrêmement violente. Et ça, je pense qu'il y a, il ne faut pas sous-estimer le danger psychologique qu'il y a. Je pense qu'il y a de la souffrance psychologique, voire psychiatrique.
Oui.
Qui va devoir être traité. Je crains, hélas, qu'on sous-estime cette dimension-là, alors que, et déjà, la psychiatrie souffre beaucoup en France depuis des années d'un manque de moyens, d'un manque de soutien des pouvoirs publics. Or là, je pense qu'il y en a plus besoin que jamais, et on en parle très très peu, malheureusement, mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de fragilité, voire de passage à l'acte.
Et je
pense qu'on devrait entendre plus les psychiatres.
C'est ce que disent justement beaucoup de psychiatres les hôpitaux publics, pardon. Gilles, d'un mot sur cette contradiction apparente.
Oui, c'est très intéressant ce que vient de dire Natacha, parce que pour ne pas être trop
toujours
long, je ne l'avais pas relevé, mais il y a un des Français qui nous écrit: si ça continue comme ça, attendons-nous à remplir les hôpitaux psychiatriques. C'est exactement ce qui a été dit cette semaine, et dans une interview il y a quelques jours, Boris Cyrulnik disait, peut-être ça vaudra pour l'école, le confinement est à la fois une protection physique et une agression psychique. Donc il y a cette dimension-là qui, je crois, est une dimension très importante.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Cette ligne de crête, elle repose aussi, et au fond avant tout, sur les Français, sur nos concitoyens, sur leur civisme et leur discipline. Aucun plan, aucune mesure, aussi ambitieuse soit-elle, ne permettront d'endiguer cette épidémie si les Français n'y croient pas ou ne les appliquent pas, si la chaîne virale n'est pas remplacée par une chaîne de solidarité. À partir du 11 mai, le succès ne reposera pas sur la seule autorité de l'État, mais sur le civisme des Français.
C'était mardi et le Premier ministre Édouard Philippe présentait donc le plan de déconfinement du gouvernement devant les députés à l'Assemblée nationale. On va parler de l'opinion, on va parler de la société, de la défiance ou du problème de la confiance que rencontre l'exécutif aujourd'hui. Mais sur le mode d'emploi, Natacha, qu'avez-vous pensé de ce que nous attendions maintenant depuis des jours, depuis des semaines, à savoir quelles seront les étapes, que faudra-t-il faire pour sortir du confinement, puisqu'on ne sortira pas d'ailleurs du déconfinement non plus.
Non, mais on sort pas du confinement en fait, et c'est ça
oui.
Qui ressort de ce discours. Et en fait, ce qui m'a gêné dans ce discours est exactement ce dont nous parlions à l'instant. C'est-à-dire que il y a des bonnes mesures, des mesures indispensables, des mesures de bon sens, bien entendu. Premier point. Deuxième point, nous savons tous à quel point tout cela est complexe et mouvant, et nous devons garder à l'esprit que si ça se trouve, il faudra se reconfiner à un moment parce qu'on ne maîtrise pas tout. Mais justement, il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout, mais que ce n'est pas parce qu'il y a ce risque et parce qu'on ne maîtrise pas tout qu'il faut tout arrêter et avoir peur. C'est tout le paradoxe de la conscience du danger, mais en régulant la peur. Or, la façon dont Édouard Philippe a construit son discours me semble problématique sur certains points. Il prétend faire appel à la liberté des individus, au civisme, et en même temps, on entend en permanence une dimension punitive, c'est-à-dire une infantilisation. En gros, nous vous interdisons tout, et si vous ne respectez pas les interdits, ça se passera mal. C'est-à-dire
une infantilisation.
Une menace. Au lieu de s'appuyer sur l'intelligence des individus et sur leur volonté de respecter les règles qu'ils se fixent collectivement, parce que nous savons que c'est indispensable, mais tout en ayant conscience qu'il va falloir vivre comme ça et que donc il ne faut pas être terré avec la peur au ventre. Or là, je pense que c'est l'inverse, parce qu'on est toujours dans cette dimension qui oublie la citoyenneté, c'est-à-dire le libre arbitre des individus. Et puis surtout, on prend conscience que... Il y a des paradoxes, on va y venir, hein, là je oui. rapidement, des paradoxes énormes. C'est-à-dire qu'en gros, on estime qu'il est possible de condamner un siège sur deux dans un RER parce qu'il faut aller travailler. En revanche, on peut pas condamner un siège sur deux dans un cinéma. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce qui apparaît dans ce plan, c'est que ceux-là même qui depuis des décennies nous expliquent que l'industrie, on l'abandonne, ça sert à rien, et que la richesse de la France, ça va être le tourisme, ça va être les loisirs, etc., sont en train d'euthanasier tout le secteur de la culture, tout le secteur de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, mais totalement, c'est une euthanasie précise, directe, voilà, parce que c'est du superficiel et parce que c'est du plaisir. Et à côté de ça, en revanche, on va favoriser le travail qui, lui, est concret, utile, rentable. Je pense que c'est oublier que le secteur de la culture, le secteur du tourisme, justement, sont très rentables et qu'ils sont très importants.
Jouissons sans entrave.
Il y a moyen de penser différemment. C'est pas jouissons sans entrave. C'est ayons conscience qu'il y a des gens qui travaillent dans ce secteur-là. Et que
non, mais je le dis en plaisantant.
Moyen de penser les choses différemment plutôt que de faire peur et de dire vous allez en baver, vous êtes pas là pour rigoler.
Gilles, vous partagez l'analyse, discours punitif, infantilisation?
Alors, je ne le partage qu'à moitié. Ce que je partage, c'est que je crois le premier mot pour qualifier le plan d'Édouard Philippe, c'est la prudence. On voit que sur chaque arbitrage qui a été rendu, sur chaque micro-question, la balance est tombée du côté de la prudence, révélant ce faisant, c'est vrai, du contenu du plan de déconfinement, mais c'est sans doute vrai aussi de la manière dont chacun d'entre nous l'a reçu, ce que François Goguel appelait les tempéraments. C'est selon le rapport que chacun a au risque, le rapport que chacun a à l'optimisme que l'on peut juger ce plan qui est, c'est vrai, une ligne de crête, et on mesurait en écoutant le Premier ministre la difficulté de l'exercice. Donc, je partage ce que dit Natacha sur ce point-là, c'est un discours et une stratégie d'extrême prudence. En revanche, là
non, où punitif, infantilisation.
Alors, c'est justement là où je prends une distance par rapport à ce que dit Natacha, c'est sur l'infantilisation. Parce que le deuxième mot, j'ai une hésitation sur le deuxième mot, moi, qui est entre confiance, donc qui est exactement le contraire de l'infantilisation, et défausse. La confiance, parce que sur beaucoup de sujets, ce qu'a présenté Édouard Philippe, en fait, ressemble beaucoup à ce que et Natacha et moi appelions de nos voeux la semaine dernière, c'est-à-dire que l'État va beaucoup plus qu'il ne le faisait dans la première phase s'appuyer sur les collectivités locales, sur les entreprises et sur les individus. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est plus de la confiance que de l'infantilisation. En revanche, j'ai une hésitation, est-ce que c'est de la confiance ou quelle est la part de confiance et quelle est la part de défausse? C'est-à-dire que on a aussi le sentiment qu'il y a un mistigri qui est en train de passer de main en main. Il y a le président de la République qui a fixé la date du 11 mai et qui a refilé le mistigri au Premier ministre en lui disant « ben maintenant débrouille-toi pour présenter une stratégie qui rentre dans ce calendrier ». Et on voit maintenant le Premier ministre qui fait un peu la même chose avec les acteurs en fixant parfois des conditions dont on se demande comment ces mêmes acteurs auront la capacité de les remplir. Je pense notamment à la question des transports publics.
À la question des transports publics, mais vous vous êtes senti infantilisé ou qu'on vous parlait comme un gamin mardi dernier dans l'après-midi ?
Non, moi je n'ai pas senti ça. C'était plutôt, je trouve, de la confiance au sens où on a un pouvoir qui fait confiance aux citoyens, qui a à la fois demandé la confiance aux députés, oui. Qui fait confiance aux citoyens, aux collectivités locales, avec aussi, il ne faut pas être dupe, une question de stratégie politique derrière, c'est-à-dire si ça rate, eh bien, il peut après espérer faire porter la responsabilité de cet échec et d'un reconfinement sur les Français.
On en parlera tout à l'heure avec Jérôme Jaffray. Natacha, vous parliez de la culture. J'en profite pour signaler que sur France Inter, il y aura mardi prochain toute une journée consacrée à la crise de la culture. Mais pour en revenir à ce qu'annonçait le Premier ministre quand il parlait de la réouverture des écoles, et on sait que c'est extrêmement compliqué et que ça vire au casse-tête, vous avez malgré tout compris ce qu'il voulait et ce qu'il présentait comme protocole à la fois aux élèves, aux parents et évidemment aux enseignants et aux chefs d'établissement?
Très peu.
Très peu?
Non, c'est-à-dire que première chose, c'est vrai que ce qui est resté extrêmement flou dans cette présentation, c'est le rôle des départements rouges, départements verts. Si finalement la seule différence, c'est l'ouverture ou non des collèges et l'ouverture ou non des parcs et jardins, c'est quand même assez léger. Et on ne voit pas bien en quoi c'est là que tout va se jouer, d'autant plus que justement les élèves de collège et de lycée sont à la fois ceux qui sont le plus à même de respecter des barrières, des distanciations, de mettre un masque, etc., et à la fois autonomes, donc capables de rester chez eux pour travailler de chez eux.
Oui.
L'idée que ce serait là que ça se jouerait, moi, me semble très, très étonnante. Et ensuite, il y a différentes petites choses, mais bon, c'est une accumulation. C'est-à-dire que sur les écoles, en fait, on a à la fois fait terriblement peur aux parents, tout en leur disant « mais on va quand même rouvrir les écoles ». Et on va les rouvrir dans des conditions qui semblent à certains précipité pour des raisons techniques, des raisons de, par exemple, de gestion de l'hygiène, de points d'eau, de propreté des toilettes, etc. C'est-à-dire que il y a des pays qui ont choisi de faire l'inverse, de renvoyer d'abord les lycéens et les collégiens à l'école et pas les plus petits. Donc différentes options pouvaient être mises sur la table. Je rejoins Gilles sur un point, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'ensemble des pouvoirs publics sont à la traîne de la date annoncée par Emmanuel Macron du 11 mai et essayent d'y coller comme ils peuvent en bricolant diverses choses avec des discours toujours contradictoires. Par exemple, des discours aussi, je le disais, on fait peur aux parents et en même temps on leur dit un enfant de 8 ou 9 ans ne portera pas de masque parce que de toute façon c'est pas la peine. Et pardon, mais autant un enfant de 6 ans, je comprends qu'il ne puisse pas porter de masque ou que ce soit très difficile, encore que justement il faut se fixer qu'on va leur apprendre petit à petit,
oui.
Autant 8-9 ans, ça devient un enfant peut être raisonnable et surtout on peut commencer à travailler ces choses-là. Mais là, c'est le genre de décision, donc on les envoie sans masque à l'école, sans expliquer exactement pourquoi. C'est ce choix-là qui est fait. Je pense qu'il y a là, une fois de plus, une base qui risque de provoquer la défiance.
Gilles ?
Oui, alors moi je crois pas que, enfin je ne trouve pas que ce soit flou. En revanche, je trouve que c'est extraordinairement complexe. Pour une fois, ça ressemble pas à un jardin à la française, mais à un jardin à l'anglaise. Natacha parlait à l'instant des collégiens. Si vous avez un enfant qui est en sixième ou un cinquième, il rentre le 18 mai, sinon il rentre après. Enfin, il rentre le 18 mai, sauf s'il est dans un département rouge, sans doute, ou sauf si la commune n'organise pas l'accueil, ou sauf si les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école. Donc tout ça va faire une multitude de situations qui seront extraordinairement complexes sur un sujet qui est le sujet qui, de très loin, inquiète le plus les Français. J'ai dit tout à l'heure que, alors que les mesures étaient massivement approuvées, 60% des Français sont contre la réouverture des crèches et des écoles, et pour ceux qui ont des enfants en crèche ou à l'école, ce pourcentage est encore supérieur, et 80% d'entre eux sont inquiets d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc on est sur un sujet de crispation majeure, ce que, pour partie, on peut comprendre, hein, on a vu que le conseil scientifique était sur un calendrier qui était plus long, Natacha Polony l'a évoqué, il y a des pays qui sont sur d'autres stratégies, et même un certain nombre de pays comme l'Italie qui renvoie la rentrée carrément au mois de septembre.
Mais Jean-François Delprécy l'a dit clairement, il a dit que c'était une décision politique et non pas une décision scientifique.
Bien sûr, mais le fait que le conseil scientifique dise ça pèse psychologiquement dans la perception que les parents et les Français en général peuvent avoir de cette affaire. Oui. Tout cela en dépit du fait que, quand on regarde l'évolution des connaissances entre le début et aujourd'hui, on sait maintenant, ce qui n'était pas le cas, que les enfants sont moins porteurs, qu'ils sont moins transmetteurs de la maladie, et que des précautions, quand on regarde le protocole sanitaire qui est en train d'être discuté, les précautions sont extrêmement importantes. Reste encore une fois à savoir si les conditions qui sont fixées dans la pratique peuvent être appliquées. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faudrait que l'école reprenne, et il ne le faut pas seulement pour l'économie, pour les parents ou pour les enseignants. Je crois qu'il le faut pour les enfants, il le faut pour les enfants en général, qui ont besoin de changements d'espace, de rythme et de sociabilité. Et il le faut notamment pour les plus fragiles, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de cumuler beaucoup de difficultés en ce moment et qui vont prendre un retard qu'il sera encore plus difficile de rattraper après.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Maintenant, ce qui compte, c'est recréer de la richesse. On a besoin, là on a créé de la monnaie en fait, hein, depuis deux mois, on distribue de l'argent, chômage partiel, PGE, qu'il fallait faire, hein, c'était l'oxygène. Mais maintenant il faut qu'on recrée de la richesse, et la seule manière de créer de la richesse, bah, c'est les entreprises. Là pour le moment on a donné énormément d'argent pour éviter les faillites à court terme. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas, je l'ai dit au Premier ministre tout à l'heure, arrêter ou même réduire le chômage partiel trop vite.
C'était Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, qui réagissait à la hausse spectaculaire du chômage au mois de mars, plus 7%, augmentation historique. Et il réagissait aussi évidemment au discours du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. On a entendu également cette semaine la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dire que le dispositif d'aide et de chômage partiel ne pourrait pas continuer ad vitam, qu'il fallait bientôt penser, imaginer, retrouver une reprise de l'activité, parce que ça coûte trop cher, tout simplement. Et pour résumer la pensée de la ministre du Travail, Natacha, est-ce que vous comprenez la logique de Geoffroy Roux de Bézieux ou celle de Muriel Pénicaud? Il va continuer à falloir venir en aide aux entreprises et à financer le chômage partiel, ou est-ce qu'au contraire, c'est trop coûteux, il va bientôt falloir se remettre dans des dispositions plus ordinaires?
C'est-à-dire que on s'aperçoit que là aussi, il y a des disparités entre pays. Le plan annoncé par l'Allemagne, par exemple, est finalement beaucoup plus important. Alors, certes, l'Allemagne a une balance commerciale qui n'est pas la nôtre, tout ce qu'on veut, des excédents budgétaires, mais pour autant, nous savons tous que dans cette crise, il va falloir créer un amortisseur absolument énorme. En revanche, ce qui me semble frappant, c'est justement le fait qu'on a choisi de ne pas faire reprendre certains secteurs. Et je parlais tout à l'heure du secteur de la culture, c'est-à-dire des secteurs où là, il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a pas de chômage partiel, il y a des gens qui risquent de crever de faim, tout simplement. Et d'autres encore qu'on ne voit même pas, c'est-à-dire par exemple quand on décide de ne pas rouvrir les restaurants, alors que certains pourraient, selon des règles très strictes, le faire parce qu'ils sont capables de s'organiser. Quand on choisit de ne pas faire ça, les restaurants bénéficient des aides de l'État. En revanche, tous les fournisseurs derrière, toute l'agriculture qui ne vit que de la restauration, va crever. Donc, je pense que nous ne mesurons pas encore l'ampleur des aides qu'il faudra et l'ampleur et la nécessité majeure de faire repartir certains secteurs, encore une fois, avec toutes les mesures essentielles de protection, mais il y a moyen d'inventer des choses. Et là, le tort qu'on aurait, ce serait de considérer que certains secteurs sont accessoires, qu'ils relèvent du superficiel, du plaisir. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la notion de plaisir et de mode de vie, en fait. C'est-à-dire qu'on a dans la tête qu'il y a certains secteurs, ils peuvent crever parce que c'est la joie de vivre des Français. Donc ça, on peut l'éliminer. Je crois que c'est profondément dangereux.
Gilles.
Avec l'indemnisation du chômage partiel, l'État a fait un effort budgétaire qui est absolument considérable. Hein, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards. Il y a eu une forme de nationalisation des salaires. Donc, il y a eu cet effort considérable et pourtant, il y a déjà une crise sociale qui est importante avant même les effets que l'on ne connaît pas encore sur l'augmentation du chômage, parce que en dépit de ce dispositif, et qui est souvent plus généreux qu'ailleurs, eh bien, il y a beaucoup de Français qui ont eu une baisse de leur revenu. D'abord parce que le chômage partiel ne couvrait pas la totalité, mais parce qu'il ne reposait pas non plus sur les heures supplémentaires, sur les primes. Quand, dans le même temps, vous aviez une augmentation des postes d'alimentation, il y a beaucoup de Français qui sont dans la difficulté d'ores et déjà. Et donc, je crois qu'il faudra être progressif sur la levée du chômage partiel, qu'il faudra aussi et surtout revenir sur la réforme antérieure qui durcissait, je crois, de manière qui avait déjà été fortement contestée, les conditions d'accès à l'indemnisation du chômage, qu'il faudra regarder de près, Natacha a raison sur ce point, la question des intermittents, parce que le secteur de la culture est profondément et durablement affecté par cette crise. Et puis, là, Geoffroy Roux de Bézieux a raison aussi, à un moment qui s'approche, il va falloir recréer de la richesse, c'est-à-dire recommencer à travailler. Et c'est pas seulement parce que cette crise coûte cher au pouvoir public, c'est parce que la longueur même de la crise finit par créer des effets de rupture et fait que la reprise sera plus difficile.
12h30 sur France Inter et à suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Jérôme Jaffray.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Pourquoi les Français font-ils aussi peu confiance à leurs dirigeants pour gérer la crise que nous traversons? Comment l'exécutif peut-il répondre à cette question, celle de savoir comment mobiliser la population quand à la crise sanitaire s'ajoute une profonde crise de la confiance? L'invité du grand face-à-face, c'est l'un des meilleurs spécialistes de l'opinion et de la vie politique, directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Il est aussi chercheur au CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique de Sciences Po. Bonjour Jérôme Jaffray.
Bonjour Ali.
Merci d'être à l'antenne de France Inter. Beaucoup de questions à vous poser. Êtes-vous satisfait de la gestion du dossier du coronavirus par le gouvernement? Je ne vous pose pas la question à vous directement. Je le dis en souriant, c'est la question qui a été posée pour le CEVIPOF dans plusieurs pays de l'Union européenne. Et les Français ont répondu non, non à 62%, ce qui est élevé et ce qui est beaucoup plus élevé que ce qu'ont répondu nos voisins européens. Comment expliquer cette exception française?
Vous avez raison, hein, c'est spectaculaire. Dans l'enquête, le CEVIPOF mène un programme d'études dans plusieurs pays pour voir l'impact du coronavirus et la confiance politique, qui est cette denrée fondamentale en démocratie. Et la France est à la traîne sur ce sujet. Alors, il y a des tas de raisons, hein, je ne vais pas être trop long. Mais sur cette affaire particulière, je dirais peut-être quelque chose. D'abord, le sentiment que des promesses et des échecs sont trop patents, trop visibles. La variation du discours sur les masques a été quelque chose d'insupportable pour les Français. Le fait qu'on leur dise que c'était pas nécessaire, puis finalement qu'ils ont qu'à les faire eux-mêmes ou que c'est indispensable. Les tests qui sont à la traîne. Il y a eu là-dessus des ratés. Et comme c'est l'État qui est responsable de tout en France et le pouvoir politique qui est responsable de tout, c'est à lui que c'est imputé. Un second élément, si vous voulez, c'est qu'il y a une insuffisance de mise en valeur. Gilles Finkenstein rappelait il y a un instant à votre antenne l'effort colossal que le pouvoir public font pour indemniser les Français qui ne peuvent pas travailler, qui sont confinés pendant cette période. Et c'est vrai que c'est plus généreux qu'ailleurs. La mise à valeur est très insuffisante. Il y a plus de 10 millions de salariés qui bénéficient du chômage partiel. C'est quand même quelque chose de fondamental dans notre période. Et ça n'est pas mis suffisamment du point de vue des gouvernants au crédit des gouvernants. Et puis la troisième chose, d'un mot, c'est que Emmanuel Macron avait annoncé un esprit de concorde, l'union nationale. Oui. Ça ne s'est pas traduit du tout. Et donc, c'est un ensemble de choses qui fait qu'effectivement, la défiance qui était là avant le coronavirus n'a pas diminué pendant cette crise qui, normalement, est une crise qui pousse à l'unité nationale.
Avant de donner la parole à Natacha et Gilles et de parler justement de cette union nationale ou de cette union sacrée qui a disparu, qui a fait long feu, vous faisiez la liste de ce qu'avait manqué le gouvernement ou en tout cas de ce qu'on peut lui reprocher, le discours ou la gestion des masques, celle des tests. Mais quand on regarde par exemple au Royaume-Uni, 61% des Britanniques continuent de faire confiance ou sont satisfaits par la gestion par le gouvernement de cette crise, quand on sait l'évolution spectaculaire de la stratégie du Royaume-Uni, on peut être stupéfait. En Italie, 55% des Italiens font confiance eux aussi au gouvernement, alors que c'est l'un des pays les plus touchés d'Europe. Ça s'explique comment ?
Le plus stupéfiant, c'est l'Italie quand même, parce que l'Italie structurellement présente les mêmes caractéristiques de défiance traditionnelle envers sa classe politique que la France. Et il y a l'unité nationale autour de Giuseppe Conte. Donc on a quelque chose en France qui ne se fait pas. Et là, je dirais, il faut bien considérer aussi que la base sociale et politique du pouvoir est trop étroite en France. C'est un problème. D'abord, en Royaume-Uni, le pouvoir vient d'être légitimé par les élections et Boris Johnson a connu l'épreuve personnelle du coronavirus à un point tel, je dirais, que forcément l'opinion publique britannique ne peut guère lui en vouloir. Mais l'Italie, c'est autre chose, c'est-à-dire que les mesures ont été beaucoup mieux acceptées et comprises. C'est un problème de base sociale et politique. Nous avons en France des catégories populaires qui sont extrêmement défiantes à l'égard du pouvoir et à l'égard d'Emmanuel Macron. Dans les récents sondages, je regardais ce baromètre Ipsos pour Le Point, nous avons une grosse baisse par rapport au mois précédent de la cote de Macron dans les catégories populaires. Et puis la base politique aussi est trop étroite, c'est lié à la présidentielle et aux législatives qui suivent la présidentielle, qui donnent le pouvoir et une majorité absolue à l'Assemblée, au président qui vient d'être élu, sans rechercher une base politique beaucoup plus large, alors que les autres pays européens ont une tradition parlementaire plus forte et des bases politiques et sociales plus larges. C'est donc, ça renvoie quand même à l'avenir à un problème des institutions politiques en France, et elles ne sont pas adaptées aujourd'hui à des bases suffisamment larges, me semble-t-il.
Natacha Polony.
Oui, je pense que je rejoins totalement la vision qu'a Jérôme Jaffray sur ce point. Quand on parle d'union nationale, une union nationale, ce n'est pas la décision unique d'un parti et le fait que les autres doivent se taire et accepter. L'union nationale, c'est l'intégration de toutes les composantes de la nation. Or, nos institutions ne le permettent pas et la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron ne va peut-être pas spontanément vers ça. On l'a vu depuis le début de son quinquennat.
Mais on aurait pu penser que les circonstances exceptionnelles auraient pu effacer, d'une certaine manière, une partie au moins de la défiance ou du manque de confiance qu'ont les Français envers le président de la République et le gouvernement.
Mais justement, c'est ce que je vous explique, Ali. Premier point, ça ne peut se faire que si chacun a l'impression qu'il y a une véritable intégration de tous et non pas l'idée qu'il faut se taire parce que l'Union nationale, c'est d'accepter les décisions du pouvoir. Et ce qui est venu renforcer donc ce sentiment qu'il n'y avait pas de véritable Union nationale, mais que ce n'était pas le fait de ceux qui ne s'y rangent pas, c'est le fait de la pratique du pouvoir. Ce qui a amplifié ça, c'est la question, là aussi je rejoins Jérôme Jaffray, du mensonge. À partir du moment où il y a l'impression qu'il y a un mensonge et que ce mensonge est maintenu, parce que j'entendais encore Olivier Véran cette semaine sur LCI, et il était patent qu'il maintenait certains mensonges sur les ratés de l'administration, prétendant que jamais le pouvoir central, jamais l'État n'avait empêché des collectivités locales d'acheter des masques. Nous avons tous des témoignages précis de menaces de préfets contre des élus leur disant vous n'avez pas à aller acheter ces masques parce que vous vous substituez à l'État. Donc tout ça ne peut pas créer de l'union nationale. Et j'ajoute une chose, si on veut voir la vision que jusqu'à présent qui est maintenue par le gouvernement de ce qu'est l'union nationale, il faut regarder cette idée absurde qui est de créer un site du gouvernement sur les articles sûrs et vérifiés. Est-ce que c'est réellement ça l'union nationale, c'est considérer qu'il y a un ministère de la vérité? Est-ce que les articles disant qu'il y avait pénurie de masques, pénurie de tests et que c'était problématique auraient été considérés comme sûrs et vérifiés il y a un mois et demi par le gouvernement? Non, il n'aurait pas été sur ce site. Donc c'est une erreur majeure. Vous voyez, donc l'idée, c'est encore une fois, la question, c'est de savoir comment on intègre l'ensemble des citoyens et l'ensemble des composantes idéologiques et sociales de la nation.
Jérôme Jaffray.
Oui, sur cette question d'union nationale, il faut bien comprendre qu'il y a des stratégies. Moi, je suis personnellement surpris qu'Emmanuel Macron, dans son discours du 16 mars au soir, où il annonçait le confinement et où il a parlé de l'union nationale.
Prononcez le mot.
Oui, il a prononcé l'expression d'union nationale. Ça n'est pas été suivi d'une proposition éventuelle d'élargissement du gouvernement. Ça se fait dans les grandes épreuves. C'est l'union sacrée dans la période de 1914-1918. Or, le président dit dans ce discours, nous sommes en guerre. Il le dit 6 fois. C'est la période de la libération de la France. Il y a la large unité. Je suis surpris que le président ne l'ait pas proposé. Mais je doute fort que les opposants eussent accepté. Et c'est aussi le problème, c'est que l'Union nationale, il faut d'abord être au moins plusieurs pour pouvoir le faire. Or, il y a des stratégies maintenant qui font d'une certaine façon penser qu'une partie de la classe politique, elle ne peut pas le dire parce qu'on ne parle que du coronavirus, mais est entrée dans une sorte d'après-Macron. C'est-à-dire considérer que le président en place, d'abord, de toute façon, sa réélection serait difficile, sauf éventuellement contre Marine Le Pen au second tour, mais que si nous avons une catastrophe économique et sociale qui suit le coronavirus, c'est-à-dire avec des centaines de milliers de chômeurs, un appauvrissement du pays qui fait que la situation des catégories sociales devient extrêmement difficile, se faire réélire dans des conditions pareilles, quand on a été en plus le président d'une terrible épreuve que les Français voudront oublier, ça relève de la gageure. Et à ce moment-là, vous avez des stratégies qui se mettent en place, un personnel politique, je pense particulièrement au président de région qui pense aussi au régional de l'année prochaine accessoirement,
oui.
Je pense à Bruno Le Maire, je pense à Arnaud Montebourg. Bref, vous avez une vie politique qu'on croyait un peu entre parenthèses et qui réapparaît.
Étonnant de la voir réapparaître et surtout que vous l'exprimiez aussi clairement qu'il y aurait cette stratégie. Je donne la parole à Gilles dans un instant. L'exécutif semble avoir perdu la bataille de l'opinion, mais au fond, qui y a gagné parmi les opposants,
personne.
Par exemple, personne.
Personne n'a gagné la bataille de l'opinion, aucun des politiques ne l'a gagné. C'est très clair, parce que vous comprenez le discours de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, c'est entendu, c'est pas le même, hein, je les cite, mais je ne les confonds pas, mais c'est un discours d'opposant. Et évidemment, chaque point, Marine Le Pen, c'est l'écho sonore de tous les mécontentements des Français devant les ratés qui se succèdent. Mais ça ne donne pas une crédibilité pour gérer le pays. Elle peut éventuellement profiter d'un large mécontentement, mais elle se place uniquement sur ce terrain-là. Et Jean-Luc Mélenchon met en avant, évidemment, des thèses beaucoup plus collectivistes qui ont un écho. Arnaud Montebourg revient sur la situation du productivisme et de la souveraineté, qui devient un enjeu fondamental pour les prochaines années, mais en même temps, il y a la question de l'Europe. Donc on voit cet ensemble de choses qui commencent à apparaître je dirais donc que vous avez une situation où la perspective de la présidentielle de 2022 fait que si personne n'en profite, chacun essaye de se positionner. Car si le pays en 2022 ne veut pas réélire Macron parce que il sera dans une situation trop difficile par les épreuves subies par les Français, s'il ne veut pas élire Marine Le Pen parce qu'elle n'a pas de crédibilité politique, il faut se mettre en situation d'occuper le terrain le moment venu, mais personne aujourd'hui, on ne voit pas de transfert de confiance vraiment significatif.
Gilles Finkelstein.
Bon, je partage très largement ce que vient de dire Jérôme Jaffré. Je voudrais revenir sur cette question de l'Union nationale ou de la base, ce qu'il appelle la base sociale et politique étroite qui caractérise ce gouvernement comme il a caractérisé les gouvernements précédents. Parce que l'Union nationale est une forme de mythe qui s'est produit à de très rares moments que Jérôme Jaffré a rappelé, mais qui est souvent invoqué, qui est toujours souhaité. Je regardais les chiffres au moment des attentats. On est de la même manière qu'aujourd'hui, près de plus de 70% des Français qui souhaitent un gouvernement d'union nationale, mais qui n'est en réalité jamais réalisé, notamment dans la Ve République, dans sa période la plus moderne, ou que ce soit l'ouverture de François Mitterrand ou celle de Nicolas Sarkozy en 1988 et en 2007. Ce sont des ralliements individuels davantage que la construction de coalitions, sans parler, de manière plus symptomatique encore, ce qu'a fait Emmanuel Macron après son élection, où plutôt que de construire cette grande coalition, il était dans la construction d'un nouveau monde qui effaçait le suivant. Tout ça fait que nos gouvernants
ont une base sociale et politique qui est étroite. Jérôme Jaffray a dit que il n'y a pas eu, dans cette période, alors que ça se fait dans les grandes épreuves, d'élargissement. Est-ce que ça peut se faire après? C'est ça ma question, non pas sous la forme d'une union nationale classique au sens des partis, parce que là, on voit bien que c'est difficile, mais sous une forme plus baroque de rassemblement d'un certain nombre de personnalités. Est-ce que ça lui paraît une hypothèse plausible ou possible, et est-ce que ça suppose, le cas échéant, de changer de Premier ministre?
Jérôme Jaffray.
Oui, ça, c'est beaucoup de si qu'évoque Gilles Finkelstein, effectivement. On voit bien, cela dit, qu'à l'issue... Mais tout le problème, c'est la durée de la crise autour du coronavirus. Tout le problème en termes d'opinion pour le pouvoir, c'est, vous avez, on l'a souligné, Gilles et Natacha l'ont souligné justement, c'est un problème, la santé doit être primée, doit primer par rapport à l'économie. Ça, c'est la règle numéro un. Et quand les Français ont le sentiment, peuvent avoir le sentiment qu'on fait primer l'économie sur la santé, c'est intolérable. Et donc la question des écoles n'a pas été suffisamment expliquée, justifiée de ce point de vue, et le sentiment des Français, alors que leurs enfants c'est le bien le plus précieux, on les exposait. Là, ça c'est effectivement l'un des problèmes entre le pouvoir et le pays, mal expliqué, mal justifié. Mais si la crise du coronavirus même finit par retomber, comme on peut l'espérer d'ici quelques mois, on entre dans une nouvelle phase. Et là, il est parfaitement logique, je dirais, que nous ayons la situation d'une modification du gouvernement, c'est-à-dire dans sa composition. Il faudra en tirer un certain nombre de conclusions et pouvoir élargir, effectivement, vers, probablement, Gilles a raison, des personnalités, des maires, des présidents d'associations, des leaders syndicaux éventuels, pourquoi pas, s'ils acceptent de venir.
Mais ça ne vous étonne pas, Jérôme Jaffray, qu'on en parle aujourd'hui, qu'en pleine crise, par exemple, on puisse évoquer des crises dans le couple Macron-Philippe, comme il y a des crises de beaucoup de couples qui sont confinés, je le dis en souriant, mais en l'occurrence, est-ce que c'est vraiment quelque chose de si important et d'audible aujourd'hui?
Alors, c'est stupéfiant. C'est clairement stupéfiant qu'on ait pu dire, alors je ne sais pas, je n'étais pas destinataire des messages, que le président de la République aurait fait savoir qu'il était en désaccord, et fait savoir à des journalistes, qu'il était en désaccord avec son Premier ministre sur le fait de ne pas avoir laissé 24 heures entre le discours du Premier ministre et le vote à l'Assemblée nationale, alors que tout un chacun pouvait considérer que c'était un délai raisonnable, logique, oui. et qui permettait une vraie discussion approfondie. Mais que si c'est vrai que le président d'en faire savoir ça, c'est deux choses. D'une part, c'est lui qui installe le fait qu'il y a un désaccord grave, et deuxièmement, que la parole du président est ne prime pas sur celle du Premier ministre. C'est également assez stupéfiant. Mais pour revenir à ce que dit Gilles, à la question de Gilles Finkelstein qui est sur le changement de Premier ministre, il faut bien comprendre que dans la crise, à la fois les tensions dans le tandem sont inévitables, hein, je veux pas remonter, mais De Gaulle-Pompidou en mai 1968 était à peu près en désaccord total sur la façon de gérer la grande crise de mai 68, mais c'est Pompidou, Premier ministre, qui finalement l'a géré. C'est le Premier ministre qui a les mains dans le cambouis, dans une crise pareille, et c'est à lui de gérer les choses au jour le jour. Et du coup, le président a un peu de difficulté à exister dans ce schéma-là, et on le voit, Emmanuel Macron, sa cote de popularité retombe beaucoup plus nettement que celle d'Édouard Philippe actuellement. Maintenant, ce couple doit exister dans la crise. Est-ce qu'il se sépare après la crise? J'ai pris la référence De Gaulle-Pompidou, ça peut l'indiquer, mais ça n'a de sens que si ça correspond clairement à une nouvelle phase pour les Français et à une signification politique. Si vous réussissez à élargir un peu votre base, à comprendre qu'effectivement, vous pouvez avoir d'autres appuis, c'est éventuellement possible. Encore faut-il trouver la personnalité qui puisse jouer ce rôle de Premier ministre, oui. Et s'y ajoute le fait qu'on est presque en campagne pré-présidentielle, 2022, c'est très bientôt, et que donc un certain nombre de grands noms qu'on pourrait évoquer, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, etc., ne sont pas, à mon avis, dans l'idée d'accepter une telle mission.
Natacha Polony.
Je pense que la question est liée aussi à la spécificité d'Emmanuel Macron lui-même. C'est-à-dire que nous, là, à Marianne, on a titré cette semaine « Le macronisme covidé de sa substance, qu'a-t-il encore à nous vendre ?» Pourquoi ? Parce que toute la question, c'est cela. C'est-à-dire que bien plus que d'autres dirigeants, Emmanuel Macron a vu cette crise fracasser toute la promesse qui était la sienne. Et d'ailleurs, les ratés dont il souffre aujourd'hui, qui créent de la défiance, c'est-à-dire les manques de tests, de masques, sont liés à une question bien plus profonde que simplement le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est le processus de désindustrialisation, la vision de ce que devait être la place de la France dans la mondialisation. C'est tout ça qui vient s'agréger, et même si les Français ne se le formule pas forcément exactement en ces termes et directement, il y a la sensation que la promesse de la mondialisation heureuse, de l'Europe qui allait nous sauver, de cette Europe-là, pas l'Europe en général, mais cette Europe-là était formidable, le libre-échange était formidable, tout ça aujourd'hui semble fragilisé. Et donc la question induite, c'est Emmanuel Macron a opéré un virage à 180 degrés. Il est aujourd'hui devenu, enfin, il nous a expliqué qu'il allait se réinventer, etc.
Oui.
Est-ce possible? Peut-on se réinventer? Peut-on aujourd'hui dépasser, aller vers un avenir, le reconstruire avec des gens qui s'étaient trompés d'analyse? Or, tout ça est au cœur des débats. C'est-à-dire que vous avez en effet des figures qui essayent d'exister, de se positionner. Je suis d'accord avec Jérôme Jaffray. On a d'un côté Bruno Le Maire, on voit ressurgir Arnaud Montebourg. Mais ce n'est pas que de la stratégie politicienne. C'est aussi de la question de savoir quelle est la lecture qu'on a de ce que doit faire la France dans l'avenir. Et soit on considère que des gens qui s'étaient trompés peuvent avoir compris, changer et proposer de façon intelligente des choses, soit on considère que il faut prendre ceux qui ne s'étaient pas trop trompés, mais sachant que la tentation, et on la voit de la part de beaucoup, c'est de dire « Ah oui, mais attendez, ceux qui avaient prévu étaient des gens peu recommandables, il ne faut surtout pas leur confier ça, on va se réinventer nous, et vous allez voir que tout va aller très très bien. » Tout ça est en train de se reconstruire, ce qui fait que la question n'est pas de savoir s'il y en a qui se positionnent pour la présidentielle, mais la question est de savoir quelle est la vision de la France qu'on a.
Jérôme Jaffray.
Oh, certes, la vision de la France compte. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron, c'est vrai, il va avoir le problème du discours et des thèmes à tenir derrière. Parce que ça n'est l'émancipation individuelle, qui était son grand thème de 2017, est remplacée par la solidarité collective. Hein, les résultats, en février, on nous présentait les résultats sur le chômage comme remarquables et montrant que la politique menée était bonne. La réforme des retraites, on nous expliquait, on faisait une conférence de financement, il faut y réfléchir quand même, pour trouver 12 milliards. Et il paraissait que ça, impossible de trouver ces 12 milliards sans une bataille terrible. Et oui, on en trouve des centaines et des centaines. Mais il y a le problème de la mise en valeur aussi. L'Europe, par exemple. C'est parce qu'il y a la Banque Centrale Européenne et que l'Europe existe, l'Union Européenne existe, que finalement l'endettement devient quelque chose de possible. Donc, il faut trouver des axes de mise en valeur pour le pouvoir. S'il reste acculé sur le fait que sa campagne de 2017 n'était pas celle qu'il fallait, les résultats qui sont aujourd'hui sont catastrophiques parce que les faillites des entreprises, la montée du chômage, l'appauvrissement des Français, s'il reste bloqué là-dessus, effectivement, il va être complètement effacé. Quant à je pense quand même qu'il y a du positionnement et pas seulement le fait d'avoir tenu un discours différent. Parce qu'il faut pouvoir donner corps à un discours comme celui de Montebourg. La souveraineté, parlons concrètement, si on produit davantage en France, et c'est nécessaire dans un certain nombre de secteurs, ça passe par des outils, mais ça passe aussi par des augmentations de prix pour les Français dans les domaines. C'est-à-dire qu'on le voit actuellement sur l'agriculture, il n'y a pas d'importation, les prix alimentaires montent de 8 à 10% à partir du moment où nous reposons sur une production purement française dont les coûts sont plus élevés, tout simplement parce que déjà les coûts salariaux sont plus élevés. Donc, il y a une bataille pour le pouvoir à mener. S'il ne l'amène pas et s'il est uniquement en position défensive, c'est sûr qu'il ne tiendra pas le coup.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle de voir le retour du politique? On est en train de parler, au fond, comme si la politique reprenait ses droits, qu'elle reprenait ses droits et qu'elle était présente, qu'il ne fallait pas l'oublier malgré la crise sanitaire, malgré la crise économique, malgré la crise sociale, malgré les questions autour de la vie quotidienne. Je pense à l'école, au transport, aux masques, etc. Bonne nouvelle qu'on en soit à parler ou à imaginer 2022, Jérôme Jaffray?
Comme vous m'y avez invité, je me suis prêté à l'exercice. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais les questions qui sont derrière la crise du coronavirus sont tout de même des questions politiques. Des questions, par exemple, sur le plan sanitaire. La façon dont on a organisé les problèmes autour des masques et des tests, ce sont des questions politiques. Les problèmes de réouverture d'un certain nombre de secteurs, ça n'est pas seulement le plaisir et la joie de vivre des Français, c'est des secteurs de sociabilité où donc la transmission du virus peut être extraordinairement rapide si on y prend garde. Donc on doit prendre des mesures de précaution. Il faut l'expliquer. Le problème économique, le problème du chômage, le problème d'appauvrissement des Français, ça va être de gigantesques problèmes politiques pour l'ensemble du pays à traiter. Comment est-ce qu'on les gère? Est-ce qu'il faut plus d'Europe ou moins d'Europe dans cette situation? Est-ce que nous avons totalement décroché par rapport à l'Allemagne? Est-ce que ça va s'accélérer dans les prochains mois par les faillites d'entreprises et les pertes de compétitivité? Ce sont des questions politiques. Donc la politique ne peut pas perdre ses droits parce que c'est aussi tout simplement la démocratie.
Gilles Finkelstein.
Oui, les questions politiques que vous évoquez et le changement de thématique entre l'émancipation individuelle et la solidarité collective que vous avez évoquée, elle se fait dans un climat d'opinion. Et ma question est, nous allons bientôt sortir de cette première phase, sortir de la crise, sortir du confinement. Après 2 mois de confinement, un choc qui a été absolument considérable, quels sont les points sur lesquels les repères des Français vont se déplacer? Est-ce que c'est sur le rapport à l'État et au marché, à la nation et à l'Europe, à l'État-providence, au travail, au futur? Sur quoi, principalement, on a, pour vous, une nouvelle cartographie de l'opinion?
Jérôme Jaffray.
D'abord, la première question, c'est l'attente d'efficacité de l'État. C'est ça qui crée le problème et c'est ça qui a créé le fossé qui s'est accru entre les Français et le pouvoir, une certaine déception sur l'efficacité de l'État qui avait une promesse très haute et qui a donné le sentiment de ne pas la tenir suffisamment. La crédibilité de la parole publique n'a pas progressé, donc il y a cet aspect qui me paraît absolument fondamental. Il y a ce sentiment de protéger les Français. Les protéger à la fois sur le plan évidemment sanitaire, c'est la moindre des choses, et donc je rappelle ce prisme absolu, la santé doit passer avant l'économie. Si on reste sur cette idée, on peut dire aux Français qu'ils peuvent reprendre le travail si nous restons sur le schéma de la santé passe avant l'économie, et prenons clairement le problème des transports publics, la région parisienne pose un problème de reprise du travail dès lors qu'on ne peut pas respecter la règle, la santé avant l'économie. Il y a un plan particulier pour la région parisienne qui me paraît s'imposer, c'est une évidence, je ne comprends pas qu'il ne soit pas envisagé. Protéger les Français des conséquences en termes de chômage, en termes de faillite, en termes d'appauvrissement, c'est une chose. Mais l'un des problèmes que nous allons avoir gigantesque pour le pays, c'est qu'on va avoir des centaines de milliers de chômeurs en plus, mais que ceux qui travaillent, on va leur dire de travailler davantage, parce qu'il faut produire des richesses, qu'effectivement, si vous ne produisez rien, vous ne pouvez à un moment donné plus rien partager. Ouais. Mais on va donc avoir des centaines de milliers de chômeurs qui ne pourront pas travailler, et ceux qui travaillent, on va leur demander de travailler plus. La solidarité collective, elle doit donc se justifier sur ce plan-là. Comment est-ce qu'on peut arriver à ces niveaux-là? Donc c'est ces questions. Il faut créer protection, efficacité, solidarité. Je crois que c'est les trois termes de la bataille d'opinion qui est absolument fondamentale, parce que les Français ont peur.
Justement, Jérôme Jaffray.
Et des lendemains du virus.
Question extrêmement cynique. Est-ce qu'au fond, le meilleur allié de l'exécutif, ce n'est pas la peur? Pour mobiliser la population, ou en tout cas pour éviter que la défiance ne l'emporte?
Là, c'est la survie, hein, la peur. C'est-à-dire, au fond, les Français ont eu le sentiment, voyant la situation à l'italienne, par exemple, à un moment donné, que l'Espagne, que nous étions dans une situation de survie. La peur a existé. C'est ça qui a fait accepter le confinement. On parle du civisme exceptionnel des Français, mais c'est la peur qui joue. Il suffit de se promener dans les rues de Paris pour voir le nombre de gens avec des masques aujourd'hui. Oui. Ces fameux masques que certains ont réussi à trouver ou à fabriquer. Donc, on le voit bien. La peur existe, mais le Premier ministre l'a dit pour son discours. Il faut accepter de vivre avec le virus. Mais tout de suite, il faut ajouter, et il faut tout faire pour se protéger du virus. Par exemple, je trouve qu'une expression détestable, mais incroyablement détestable, c'est l'expression de distanciation sociale. C'est invraisemblable qu'on emploie une expression qui renvoie précisément à la fracture sociale du pays. C'est la distanciation physique dont il faut parler. C'est-à-dire qu'il faut se mettre, respecter les gestes barrières et se mettre suffisamment en distance de quelqu'un pour ne pas risquer de transmettre ou de recevoir la contamination. Oui. Mais distanciation sociale, je veux dire, on ne pouvait pas, en termes de communication, trouver une expression aussi mauvaise.
Natacha, vous êtes d'accord ?
Oui, je suis entièrement d'accord et surtout je crois que la peur n'est pas ce qui permet de mobiliser un pays et de le tourner vers l'avenir. C'est-à-dire que la peur c'est utile dans l'immédiat mais c'est du court terme. Je crois au contraire qu'il faut appuyer sur la conscience du danger, mais la nécessité aussi de comprendre que le risque zéro n'existe pas et que nous allons tous, parce que nous sommes responsables, agir. Je pense que si on maintient la peur, on maintient des gens terrés chez eux et donc on ne relance pas le pays, on ne lui permet pas d'aller vers l'avant et donc d'aider les plus fragiles qui, eux, vont souffrir terriblement.
Gilles, on ne peut pas s'appuyer sur la peur ?
Je ne crois pas qu'on puisse s'appuyer durablement sur la peur. En revanche, il faut la mesurer. C'est, je crois, le phénomène majeur dans l'évolution des sentiments des Français, davantage encore que dans d'autres pays. C'est la montée de la peur, il faut la reconnaître et c'est la différence entre la peur et l'angoisse. Il faut la surmonter. La peur, elle peut se surmonter, elle doit se surmonter et tout l'enjeu pour les pouvoirs publics, ce n'est pas de jouer sur la peur, c'est au contraire de faire en sorte de créer les conditions pour que l'on puisse la surmonter, parce que le confinement, c'est pas un mode de vie durable, ni pour les Français, ni pour les autres.
Là-dessus, on sera tous d'accord. Merci en tout cas, Jérôme Jaffray, d'avoir été notre invité. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin de confinement. Natacha et Gilles, à samedi prochain.